Marco Valdo ou les saisons en ville par Italo Calvino. Deuxième cassette, deuxième piste, page 90. Hiver, chapitre 12, le mauvais arrêt. Pour qui s'ennuie chez soi, s'y sentant mal à l'aise, le meilleur refuge durant les froides soirées d'hiver, c'est encore le cinéma. La passion de Marco Valdo, c'était les films en couleur sur écran large, lequel permet d'embrasser les plus vastes horizons. Prairies, montagnes rocheuses, forêts équatoriales, îles où l'on vit couronnées de fleurs. Il assistait toujours à deux séances, ne s'en allant seulement que lorsque le cinéma fermait ses portes, tout en continuant à vivre en imagination, dans ses paysages de rêve, à respirer leurs couleurs. Mais rentrer chez lui sous la pluie, attendre le 30 à l'arrêt du tram, se dire que sa vie ne connaîtrait jamais d'autres perspectives que des trams, des feux de signalisation, des logements au sous-sol, des réchauds à gaz, du linge étendu sur une corde, des magasins avec des caisses, des paquets et des services d'emballage, tout cela faisait que la splendeur du film se dissolvait dans une tristesse terne et grise. Ce soir-là, le film qu'il avait vu se déroulait dans les forêts de l'Inde. Des nuages de vapeur montaient des sous-bois marécageux, des serpents rampaient au long des lianes et sur les statues d'anciens temples dévorés par la jungle. À la sortie du cinéma, Marco Valdo ouvrit les yeux sur la rue, les referma, les rouvrit. Il ne voyait rien. Absolument rien. Même pas à quelques mètres devant lui. Durant les heures où il était resté dans la salle, le brouillard avait envahi la ville. Un brouillard à épais, à couper au couteau, qui enveloppait les bruits et les choses, transformait les distances en un espace sans dimension, mélangeait les lumières et la nuit pour en faire des lueurs informes et qu'on ne pouvait situer. Marco Valdo se dirigea machinalement vers l'arrêt du 30 et donna du nez dans le poteau du panneau. Brusquement, il se rendit compte qu'il était heureux. Le brouillard, en effaçant le monde qui l'entourait, lui permettait de garder encore au fond des yeux les images de l'écran panoramique. Même le froid avait diminué, à croire que la ville s'était enveloppée dans la brume comme dans une couverture. Marco Valdo, emmitouflé dans son pardessus, se sentait à l'abri de toute sensation extérieure, planait, pouvait colorer ce vide avec les images de l'Inde, du Gange, de la jungle, de Calcutta. Le tram arriva, évanescent comme un fantôme, sonnant doucement. Les choses n'avaient qu'un minimum d'existence. Pour Marco Valdo, ce soir-là, rester assis au fond du tram, en tournant le dos aux autres voyageurs, en fixant au-delà des vitres la nuit vide, seulement traversée par d'indistinctes présences lumineuses et par quelques ombres plus noires que la nuit, pour Marco Valdo, c'était l'idéal pour rêver les yeux ouverts, pour projeter devant lui, où qu'il allât, un film sans fin sur un écran illimité. Rêvant de la sorte, il avait oublié de compter les arrêts. Et tout à coup, il se demanda où il se trouvait. Il vit le tram à peu près vide, scruta les ténèbres par-delà la vitre, crut situer les lueurs qui émergeaient, se dit que son arrêt était le prochain, courut à la portière et descendit de justesse. Il regarda autour de lui, cherchant à se repérer. Mais ce minimum d'ombre et de lumière que ses yeux parvenaient à capter ne lui rappelait aucun endroit qu'il connût. Il s'était trompé d'arrêt et ne savait où il était. Le demander à un passant, c'était tout simple. Mais était-ce la solitude de l'endroit, l'heure, le temps rébarbatif? On ne voyait pas une ombre. Finalement, il en vit tout de même une, et il attendit qu'elle approchât. Non, elle s'éloignait. Peut-être qu'elle traversait ou marchait au milieu de la rue. Ce n'était peut-être pas un piéton, mais un cycliste sur un vélo sans lumière. Marco Valdo cria « S'il vous plaît, monsieur, vous savez pas où se trouve la rue Pancrazio Pancrazietti ?» La silhouette s'éloignait encore, on ne la voyait presque plus. « Par là !» dit-elle. Mais on ne savait pas de quel côté elle voulait dire. « À droite ou à gauche ?» cria Marco Valdo. Mais il ne savait pas s'il ne s'adressait point au néant. Une réponse lui parvint, ou plutôt une bribe de réponse, un « hoche » qui pouvait tout aussi bien être un « what ». De toute façon, comme l'on ne voyait pas comment l'autre était tourné, droite ou gauche ne voulait rien dire. Maintenant, Marco Valdo se dirigeait vers une lueur qui semblait venir du trottoir d'en face, un peu plus loin. En fait, la distance était beaucoup plus grande qu'il n'y paraissait. Il fallait traverser une espèce de place avec un îlot herbeux en son milieu et les flèches, seul signe intelligible, du sens giratoire pour les voitures. Il était tard. Quelques cafés ou quelques bistrots devaient sûrement être encore ouverts. Sur une enseigne lumineuse qui commençait à déchiffrer, on lisait « bar ». Elle s'éteignit. Sur ce qui devait être une vitre éclairée, tomba comme un rideau de fer une lame de nuit. Le bar fermait et, il lui sembla le comprendre juste à ce moment, il était encore très loin. Autant se diriger vers une autre lumière. Marco Valdo ne savait pas s'il marchait droit devant lui, si le point lumineux vers lequel il se dirigeait était toujours le même, ou s'il se dédoublait, se multipliait par trois ou changeait de place. La bruine d'un noir un peu laiteux dans lequel il avançait était si fine qu'il la sentait déjà, passant entre les fils du tissu comme au travers d'un tamis, s'infiltrer sous son par-dessus, l'imbiber d'eau comme une éponge. La lumière qu'il atteignit était celle de la porte embuée d'un bistrot. À l'intérieur, il y avait des consommateurs assis à des tables et d'autres debout au comptoir. Mais peut-être bien à cause du mauvais éclairage, là aussi, les silhouettes semblaient floues, comme dans ces débits de boissons, sis en des temps anciens ou en de lointains pays, et qu'on voyait précisément au cinéma. Je cherche, vous savez peut-être où que c'est, la rue Pancrazietti, commença de dire Marco Valdo. Mais le bistrot était plein de bruit, des ivrognes riaient, le croyant également ivre. Les questions qu'il parvint à poser, les réponses qu'il parvint à obtenir étaient elles aussi nébuleuses et floues, d'autant plus que pour se réchauffer, il avait d'abord commandé un quart de vin, ou plutôt se l'était laissé imposer par les gens du comptoir, puis un demi-litre, que suivirent encore quelques verres que lui offrirent les autres, avec de grandes tapes dans le dos. Bref, quand il quitta le bistrot, ses idées sur l'itinéraire qui devait le mener chez lui n'étaient pas plus claires qu'avant. Mais en compensation, le brouillard pouvait plus que jamais contenir toutes les couleurs et tous les continents. Marco Valdo, la chaleur du vin lui réchauffant le corps, marcha durant un bon quart d'heure, ses pieds éprouvant continuellement le besoin de racler de droite et de gauche pour s'assurer de la largeur du trottoir. Si tant est toutefois qu'il suivait encore un trottoir, et ses mains ne cessant de tâter le mur, si toutefois il en suivait encore un. Le brouillard de ses idées s'éclaircit à mesure qu'il marchait. Mais l'autre brouillard, le vrai, était toujours aussi dense. Il se rappelait qu'on lui avait dit au bistrot de prendre une certaine avenue, de la suivre durant 100 mètres, puis de redemander à quelqu'un. Mais à présent, il ne savait plus à quelle distance du bistrot il se trouvait, ni s'il n'avait pas fait que tourner autour du même pâté de maison. L'endroit paraissait désert, entre des murs de briques pareils à des murs d'usine. À un coin, il devait certainement y avoir une plaque avec le nom de la rue, mais la lumière des globes électriques suspendus au-dessus du milieu de la chaussée n'arrivait pas jusque-là. Pour pouvoir lire la plaque, Marco Valdo grimpa sur le poteau d'un panneau de stationnement interdit. Il grimpa jusqu'à toucher la plaque du nez, mais l'inscription avait déteint et il n'avait pas d'allumette pour mieux l'éclairer. Au-dessus de la plaque et au sommet du mur se voyait un large rebord plat sur lequel Marco Valdo parvint à se hisser en se tenant d'un bras au poteau du panneau de stationnement interdit. Il avait aperçu planté sur ce rebord un grand écriteau blanchâtre. Il fit quelques pas sur le rebord du mur pour se rapprocher de l'écriteau. Là, la lumière des globes électriques éclairait un peu des lettres noires sur fond blanc, mais le texte qu'il lut, « L'entrée est rigoureusement interdite à toute personne non autorisée », ne lui fut d'aucun secours. Le bord du mur était assez large pour qu'on pût y marcher sans perdre l'équilibre. Et à la réflexion, cela valait bien mieux que le trottoir, car les globes électriques, traçant une longue bande claire dans le noir, étaient juste à la bonne hauteur pour éclairer la marche. En un certain point, le mur s'achevait et Marco Valdo se trouva devant le chapiteau d'une colonne. Ah non, le mur formait un angle droit et continuait. D'angles en renfoncement, de bifurcations en colonnes, le parcours de Marco Valdo suivait un dessin irrégulier. Il crut plusieurs fois que le mur s'achevait, puis il découvrait qu'il continuait dans une autre direction. Après tant de détours, il ne savait plus dans quel sens il était tourné, ou plutôt de quel côté il aurait dû sauter pour regagner la rue. Sauter ! Et si, du fait de la hauteur, la dénivellation avait augmenté ? Il s'accroupit au sommet d'une colonne, essaya de regarder en bas de part et d'autre, mais pas un rayon de lumière n'arrivait jusqu'au sol. Il pouvait aussi bien s'agir d'un petit saut de 2 mètres que d'un abîme. Il ne lui restait plus qu'à continuer d'avancer au sommet du mur. Un moyen de s'en sortir ne tarda pas à se présenter à lui. C'était une surface plate, plutôt blanche, attenante au mur. Peut-être bien le toit d'un édifice en ciment, ainsi que Marco Valdo put le constater en marchant dessus, qui se prolongeait dans le noir. Il regretta aussitôt de s'y être aventuré. À présent, s'étant éloigné de la file des globes électriques, il n'avait plus de point de repère, et chacun de ses pas pouvait le mener au bord du toit, ou même un peu plus loin, dans le vide, le noir. Le noir était véritablement un gouffre. De petites lumières y brillaient qui semblaient très éloignées. Mais si c'était des réverbères, le sol devait être encore plus bas. Marco Valdo se trouvait en un lieu, un espace impossible à imaginer. Par moments, des lumières rouges et vertes apparaissaient au-dessus de lui, formant des figures irrégulières comme des constellations. En scrutant ces lumières, le nez en l'air, il ne tarda point à faire un pas dans le vide et tomba. « Je suis mort », se dit-il. Mais au même moment, il se retrouva assis dans un terrain mou. Ses mains tâtaient de l'herbe. Il était tombé dans un champ, il était indemne. Les lumières qui lui avaient semblé tellement éloignées étaient une suite d'ampoules électriques alignées au niveau du sol. Un curieux endroit pour mettre des ampoules électriques, mais c'était tout de même bien commode parce qu'elles lui traçaient un chemin. Ses pieds maintenant ne foulaient plus l'herbe, mais bien l'asphalte. Une grande avenue asphaltée s'étendait à travers champs, éclairée par ses lumières à ras de terre. Tout autour, rien. Rien que ces lueurs colorées qui apparaissaient et disparaissaient là-haut, très loin, au-dessus de lui. Une avenue asphaltée doit bien conduire quelque part, se dit Marco Valdo, et il se mit à la suivre. Il atteignit une bifurcation, ou plutôt un carrefour. Chacune des branches de l'avenue était bordée par ces fameuses petites ampoules et désignées par d'énormes chiffres blancs peints sur le sol. Il perdit courage. Pourquoi choisir de quel côté aller s'il n'y avait au-delà des avenues rien d'autre que cette prairie nue et ce brouillard vide ? Ce fut à ce moment qu'il vit bouger à sa hauteur des rayons de lumière. Un homme, vraiment un homme, les bras écartés, vêtu, semblait-il, d'une combinaison jaune, agitait 2 disques lumineux comme ceux des chefs de gare. Marco Valdo courut vers lui et, avant même de l'avoir rejoint, commença à dire tout essoufflé : Hé, vous, dites voir, ici, dans tout ce brouillard, comment on fait ? Écoutez !
Vous inquiétez pas, répondit tranquillement et poliment l'homme en jaune. Au-dessus de 1000 mètres, il n'y a plus de brouillard. Vous pouvez partir rassuré. Le petit escalier est là devant. Les autres sont déjà montés.
C'étaient là des propos obscurs, mais encourageants. Ce qui plaisait surtout à Marco Valdo, c'était d'apprendre qu'il y avait d'autres personnes pas très loin. Il avança pour les rejoindre sans plus poser de questions. Le petit escalier, mystérieusement annoncé, était vraiment un petit escalier avec des marches bien commodes, flanquées de 2 garde-fous et qui luisait dans le noir. Marco Valdo monta. Sur le seuil d'une petite porte, une jeune fille l'accueillit avec tant de gentillesse qu'il paraissait impossible qu'elle s'adressât à lui. Marco Valdo se confondit en politesse. « Mes respects, mademoiselle, bien des choses !» Glacé et mort de froid comme il l'était, il lui semblait incroyable de trouver enfin refuge sous un toit. Il entra, cligna des yeux, ébloui par la lumière. Il n'était pas dans une maison,
Où donc était-il? Dans un autobus, lui sembla-t-il, un long autobus avec beaucoup de places inoccupées. Il s'assit. D'ordinaire, pour rentrer chez lui, il ne prenait pas l'autobus, mais le tram, car le billet coûtait un peu moins. Mais cette fois-ci, il s'était égaré dans un quartier tellement éloigné qu'il n'y avait certainement que les autobus qu'il desservait. Quelle chance d'être arrivé à temps pour ce voyage qui devait sûrement être le dernier de la nuit. Et comme les fauteuils étaient doux et accueillants. Dorénavant, maintenant qu'il le savait, Marco Valdo prendrait toujours l'autobus, même si les voyageurs y étaient soumis à certaines obligations. « Vous êtes prié de ne pas fumer et d'attacher vos ceintures », disait un haut-parleur, même si le vrombissement du moteur qui démarrait était franchement excessif. Un homme en uniforme passait entre les sièges. « Excusez-moi, monsieur le receveur, » dit Marco Valdo, « savez-vous s'il y a un arrêt du côté de la rue Pancrazio-Pacrazietti ?»« Comment vous dites, monsieur ? La première escale est Bombay, puis Calcutta et Singapour. » Marco Valdo jeta un coup d'œil autour de lui. Des Indiens impassibles, portant barbe et turban, étaient assis aux autres places. Il y avait même quelques femmes enveloppées dans des saris brodés avec un petit rond de laque au milieu du front. Par les fenêtres, la nuit apparaissait pleine d'étoiles, maintenant que l'avion, ayant traversé une épaisse couche de brouillard, volait dans le ciel limpide des grandes altitudes. Printemps, chapitre 13, là où le fleuve est le plus bleu. C'était en un temps où les aliments les plus simples recelaient des menaces insidieuses et relevaient de la fraude. Il n'était pas de jour où le journal ne révélait des choses épouvantables à propos du panier de la ménagère. Le fromage était fait de matière plastique, le beurre avec des bougies. Dans les fruits et légumes, le taux d'arsenic des insecticides était plus élevé que celui des vitamines. Les poulets étaient engraissés avec certaines pilules synthétiques qui pouvaient transformer en poulet ceux qui en mangeaient une cuisse. Le poisson frais avait été pêché l'année précédente en Irlande et on lui maquillait les yeux pour qu'il parût de la veille. Une souris, dont on ne savait pas si elle était vivante ou morte, avait été découverte dans un bidon de lait. Des bouteilles d'huile ne coulaient point le suc doré des olives, mais de la graisse de vieux mulets opportunément filtrée. À son travail ou au café, Marco Valdo écoutait tout cela, et chaque fois il avait l'impression que le sabot d'un mulet lui martelait l'estomac ou qu'une souris courait dans son ésophage. Chez lui, quand sa femme Domitilla revenait de faire son marché, la vue de son cabas qui le réjouissait tant autrefois avec les céleris, les aubergines, le papier rêche et poreux des paquets de l'épicier et du charcutier, lui inspirait maintenant la même crainte que si des présences ennemies s'infiltraient au travers des murs de son logement. « Tous mes efforts, se promit-il, devront tendre à pourvoir ma famille d'aliments qui ne soient pas passés par les mains suspectes des spéculateurs. » Le matin, en se rendant à son travail, il rencontrait parfois des types avec des cannes à pêche et des bottes de caoutchouc qui se dirigeaient vers les bords du fleuve. « Voilà la solution », se disait Marco Valdo. Mais là, en ville, le fleuve qui charriait des ordures et où se déversaient les eaux sales et les égouts lui inspirait une profonde répugnance. « Il faut que je trouve un endroit, se dit Marco Valdo, où l'eau soit de la vraie eau et les poissons de vrais poissons. C'est là que je jetterai ma ligne. » Les jours commençaient à rallonger. Après son travail, Marco Valdo s'astreignait à explorer avec son cyclomoteur le fleuve et ses affluents en amont de la ville. Ce qui l'intéressait surtout, c'était les endroits où l'eau coulait le plus loin possible de la route asphaltée. Il progressait alors par les sentiers, les boquetaux de saules, aussi loin qu'il pouvait aller avec son cyclomoteur, puis, le laissant dans un buisson, il continuait à pied jusqu'au bord du fleuve. Une fois il s'était égaré, il tournaillait sur des pentes broussailleuses et escarpées et ne voyait plus aucun sentier, ne savait plus de quel côté était le fleuve. Tout à coup, en écartant des branchages, il aperçut quelques mètres plus loin, en un endroit où le fleuve s'élargissant formait presque un petit bassin, une eau calme, silencieuse, et dont la couleur d'un bleu limpide évoquait un lac de montagne. L'émotion ne l'empêcha pourtant pas d'observer attentivement le frisli du courant.
Et voilà que sa patience était récompensée. Un petit bruit, le frémissement caractéristique d'une nageoire à la surface de l'eau, et puis un autre encore. Merveilleux. À n'en pas croire ses yeux. C'était là le lieu de rendez-vous de tous les poissons du fleuve, le paradis du pêcheur, un paradis encore ignoré de tous peut-être, sauf de lui. Au retour, la nuit commençait à tomber, il s'arrêta pour graver des repères sur l'écorce des ormes et faire des petits tas de pierres en certains endroits afin de pouvoir retrouver ce chemin. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à s'équiper. À vrai dire, il y avait déjà pensé. Il avait déjà repéré une dizaine de mordus de la pêche parmi ses voisins et le personnel de la SBAV. À demi-mot et par allusion, en promettant à chacun de lui indiquer, dès qu'il aurait été sûr de la chose, un endroit plein de tanches connu de lui seul, il réussit à se faire prêter, un peu par l'un, un peu par l'autre, l'attirail de pêcheur le plus complet qu'on eût jamais vu. Au point qu'il ne lui manquait absolument rien. Canne à pêche, ligne, hameçon, appât, épuisette, grande botte de caoutchouc, panier. Une belle matinée de printemps, 2 heures de temps, de 6 à 8 avant d'aller au travail, le fleuve avec l'étanche. Impossible de ne pas en attraper. En fait, il suffisait de lancer la ligne et il en prenait. L'étanche mordait à l'hameçon sans la moindre méfiance. Vu qu'avec la ligne c'était si facile, il essaya avec l'épuisette. C'était l'étanche si bien disposée qu'elle se précipitait dedans, la tête la première. « Hé, vous là-bas !» Au bord du fleuve, là où il faisait un coude, un type, avec une casquette de garde, se tenait debout parmi les peupliers et le regardait sévèrement. « Moi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit Marco Valdo, sentant peser une menace inconnue sur ses tanches. « Où les avez-vous pris, ces poissons-là ? » demanda le garde. « Hein ? Pourquoi ?» Et le cœur de Marco Valdo battait déjà la chamade. « Si vous les avez pêchés là, jetez-les tout de suite. Vous n'avez pas vu l'usine, là, en amont ?» Et il désignait un long et bas édifice qu'à présent, après avoir tourné le coude du fleuve, on apercevait au-delà des saules et qui crachait de la fumée dans le ciel et dans l'eau un épais nuage d'une invraisemblable couleur qui tenait le milieu entre le bleu turquoise et le violet. « Vous devez au moins avoir vu la couleur de l'eau, non ? Fabrique de peinture, le fleuve est pollué, les poissons empoisonnés à cause de ce bleu. Jetez-les tout de suite, sinon je vous les confisque. » Marco Valdo aurait voulu les jeter immédiatement au loin, s'en débarrasser comme si leur odeur seule suffisait à l'empoisonner. Mais il ne voulait pas avoir l'air de canner devant le garde. « Et si je les avais pêchés un peu plus haut ? Alors c'est une autre paire de manches. Je vous les confisque et je vous colle une amende. Un peu plus haut, en amont de l'usine, il y a une réserve de pêche. Vous ne voyez pas les criteaux ?»«
Moi, vous savez, s'empressa de dire Marco Valdo, je porte une canne à pêche comme ça, pour épater les copains. » Mais les poissons, je les ai achetés chez le poissonnier du patelin d'à côté. Ah, rien à dire alors. Il vous reste seulement à acquitter les droits de l'octroi, si vous voulez les emporter avec vous, parce qu'ici, on n'est plus en ville.
Marco Valdo avait déjà ouvert son panier et en versait le contenu dans le fleuve. L'une des tanches devait être encore vivante, car elle disparut en frétillant, toute contente. Été. Chapitre 14. La lune et le niaque. La nuit durait 20 secondes, et 20 secondes aussi le niaque. Pendant 20 secondes, on voyait le ciel bleu traversé de nuages noirs, la faucille dorée de la lune croissante, entourée d'un halo immatériel, impalpable, puis des étoiles dont les multiples points scintillants, plus on les regardait, allaient s'épaississant jusqu'aux nuages de poussière de la Voie lactée. Tout cela vu très vite, très vite. Chaque détail sur quoi on s'arrêtait vous faisait perdre quelques secondes de l'ensemble, car les 20 secondes finissaient tout de suite et le niaque commençait. Le niaque était une partie du panneau publicitaire SPAC Cognac qui se trouvait sur le toit d'en face, qui restait allumé 20 secondes et 20 secondes éteint. Quand il était allumé, on ne voyait rien d'autre. La lune pâlissait brusquement, le ciel devenait uniformément noir et plat. Les étoiles ne scintillaient plus. Les chats et les chattes, qui depuis 10 secondes miaulaient amoureusement en se frôlant l'air langoureux le long des gouttières et au fait des toits, se blottissaient sur les tuiles, le poil hérissé dans la fluorescente lumière du néon. Regardant cela de la fenêtre de la mansarde où elle habitait, la famille de Marco Valdo était en proie à des sentiments fort divers. C'était la nuit, et Isolina, qui était maintenant une grande jeune fille, se sentait transportée par le clair de lune. Son cœur fondait, et même le grésillement le plus étouffé des transistors des étages inférieurs avait pour elle des allures de sérénade. Puis, c'était le niaque, et les radios semblaient reprendre un autre rythme, un rythme de jazz, et Isolina pensait au dancing tout illuminé, et elle, pauvrette, toute seule là-haut. Pietruccio et Michelino écarquillaient les yeux dans la nuit et se laissaient envahir par la chaude et douce peur d'être entourés de forêts pleines de brigands. Puis de nouveau le niaque, et il bondissait, s'affrontant, le pouce dressé, l'index tendu. « Oh les mains, je suis Superman !» Domitila, leur mère, disait chaque fois que la nuit cédait la place au niaque. « Maintenant les gosses, faut les ôter de là, la fraîcheur du soir peut leur faire du mal. » Et Isolina à la fenêtre à cette heure-ci, c'est pas convenable. Mais tout était de nouveau lumineux, électrique, au dehors comme à l'intérieur, et Domitilla avait alors l'impression d'être en visite dans le grand monde. Fiorello, lui, jeune homme mélancolique, voyait apparaître dans l'arrondi du G, chaque fois que le niaque s'éteignait, la petite fenêtre à peine éclairée d'une mansarde, et derrière la vitre, le visage d'une jeune fille couleur de lune, couleur de néon, couleur de lumière dans la nuit, et une bouche qui était presque encore d'une enfant et qui, dès qu'il lui souriait, écartait imperceptiblement les lèvres, prête, semblait-il, à sourire vraiment, quand soudain l'impitoyable jet du niaque se réilluminait. Le visage perdait alors sa netteté, devenait une pauvre ombre pâle, et Fiorello ne savait plus si la bouche de la petite fille avait ou non répondu à ce sourire. Au milieu de ce tourbillon de passion, Marco Valdo s'efforçait d'apprendre à ses enfants la position des corps célestes. Ça, c'est le grand chariot. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est le timon. Ça, c'est le petit chariot. L'étoile polaire indique le nord. Et cette autre-là, elle indique quoi ? Elle indique le C, mais elle n'a rien à voir avec les étoiles. C'est la dernière lettre du mot cognac. Les étoiles, au contraire, indiquent les points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Le croissant de la lune est tourné vers l'ouest. Croissant au ponant, lune augmentant. Croissant au levant, lune diminuant. Papa, alors le cognac diminue ? Le croissant du C est au levant. Augmentant ou diminuant ont rien à voir là-dedans. C'est une réclame qui est mise là par la société SPAC. Et la Lune, qui c'est qui l'a mise où qu'elle est ? La Lune, c'est pas une société qui l'a mise là. C'est un satellite, la Lune, et elle est toujours là. Si elle y est toujours, pourquoi que son croissant change ? C'est les quartiers. Et la lune, on en voit seulement un bout. Le cognac aussi, on en voit seulement qu'un bout. C'est parce que le toit de l'immeuble Pierre Bernardi est plus haut. Plus haut que la lune. Et comme cela, chaque fois que le niac s'allumait, les astres de Marco Valdo se confondaient avec les commerces terrestres. Et Isolina transformait un soupir en un rythme fredonné de mambo et disparaissait, pauvre jeune fille de la mansarde, dans l'anneau aveuglant et froid du G, y cachant sa réponse au baiser que Fiorello avait finalement eu le courage de lui envoyer du bout des doigts. Et Filippetto et Michelino, les poings devant la figure, jouaient au mitraillage aérien, tac, 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 prenant pour cible l'inscription lumineuse qui s'éteignait au bout de 20 secondes. Tac, 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 t'as vu papa, je l'ai éteint d'une seule rafale, dit Filippetto. Mais déjà, n'étant plus dans la clarté du néon, son fanatisme guerrier avait disparu, et ses yeux étaient rouges de sommeil. Ah, si ça pouvait être vrai, ne put s'empêcher de dire Marco Valdo. Je vous ferai voir le lion, les gémeaux. Le lion, s'exclama Michelino, enthousiasmé. Attends !
Il lui était venu une idée. Il prit son lance-pierre, le chargea avec de petits cailloux dont il avait toujours une réserve en poche et tira de toutes ses forces contre le niaque. On entendit cette grêle tomber éparpillée sur le toit d'en face, sur les tôles de la gouttière, le bruit de verre brisé des vitres d'une fenêtre touchée, le gong d'un caillou tombant sur la partie métallique d'un phare d'auto. Une voix monta de la rue. « Ah, il pleut des pierres ! Hé, là-haut, salopard !»
Mais la publicité lumineuse s'était éteinte au bout de ces 20 secondes, juste au moment du tir du lance-pierre. Et dans la mansarde, tout le monde se mit mentalement à compter. 1, 2, 3, 10, 11, jusqu'à 20. À 19, ils soufflèrent, comptèrent 20, puis 21 et 22, dans la crainte d'avoir compté trop vite. Mais non, rien. Le niaque ne se rallumait pas. Il n'était plus qu'un noir gribouillis, quasiment indéchiffrable, s'entrelaçant à son bâti de soutien comme le raisin à la treille. « Ah !» s'écrièrent-ils tous. Et la voûte céleste se leva au-dessus d'eux, brillant de myriades et de myriades d'étoiles. Marco Valdo, qui, la main levée, s'apprêtait à donner une taloche à Michelino, se sentit comme projeté dans l'espace. L'obscurité, qui régnait maintenant à la hauteur des toits, formait comme une barrière sombre qui excluait le monde d'en bas où continuaient à tourbillonner les hiéroglyphes jaunes, verts et rouges, les clins d'yeux des feux de signalisation, le ferraillement lumineux des tramways vides et les autos invisibles qui poussent devant elles le rayon de lumière de leurs phares. De ce monde-là n'arrivait là-haut qu'une phosphorescence diffuse, vague comme une fumée. Et rien que de lever les yeux, des yeux qui maintenant n'étaient plus éblouis, la perspective des espaces s'ouvrait, les constellations se dilataient en profondeur, le firmament tournait de partout, sphère qui contient tout et qui ne connaît pas de limite. Seule, une moindre épaisseur de sa trame formait comme une brèche du côté de Vénus, afin de la faire ressortir seule là-haut, au-dessus de la Terre, seule avec sa blessure stagnante de lumière explosée et concentrée en un seul point. Suspendue dans ce ciel, la nouvelle lune, au lieu d'affecter l'apparence abstraite d'une demi-lune, révélait sa nature de sphère opaque éclairée tout autour par les rayons obliques d'un soleil perdu pour la Terre, mais qui conservait tout de même, comme cela se voit seulement durant certaines nuits du début de l'été, sa chaleureuse couleur. Et Marco Valdo a regardé cette étroite rive de lune taillée là, entre l'ombre et la lumière, rêvait mélancoliquement de pouvoir rejoindre cette espèce de plage, demeurée miraculeusement ensoleillée dans la nuit. Ils restaient tous là à leur fenêtre. Les gosses, effrayés par les conséquences démesurées de leurs gestes. Isolina, transportée comme en extase. Fiorello, qui seul de tous, apercevait la mansarde chichement éclairée et le sourire lunaire de la jeune fille. Domitilla se secoua.
« Allez, allez, il fait nuit. Qu'est-ce que vous faites encore à la fenêtre? Vous allez attraper la crève sous ce clair de lune. »
Et Michelino pointa son lance-pierre vers le ciel.
« Eh ben moi, je vais l'éteindre, la lune. »
Il fut empoigné et mis au lit. Ainsi, pour le reste de cette nuit-là et durant toute la nuit suivante, la publicité lumineuse du toit d'en face ne disait plus que « Spac Co » et de la mansarde de Marco Valdo, on voyait enfin le firmament. Fiorello et la jeune fille lunaire s'envoyaient des baisers du bout des doigts, et peut-être qu'en se parlant par signes, ils finiraient bien par se donner un rendez-vous. Mais le matin du surlendemain, deux petites, petites silhouettes se découpaient dans le bâti de la publicité lumineuse. C'étaient deux électriciens en combinaison qui vérifiaient les tubes fluorescents et les fils électriques. Avec la mine des vieillards qui prévoit le temps qu'il va faire, Marco Valdo mit le nez à sa fenêtre et dit « Cette nuit, ce sera de nouveau une nuit de niaque. » On frappait à la porte. On ouvrit. C'était un monsieur avec des lunettes. «
Excusez-moi, dit-il, est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil par votre fenêtre ?»«
Merci. » Et il se présenta. « Dottor Godifredo, agent de publicité lumineuse. »
Dottor veut dire docteur, bien sûr, mais docteur, c'est un titre universitaire, souvent un peu fantaisiste en Italie, qui ne veut pas dire, dans ce cas-là, docteur en médecine. Nous v'là frais, ils vont nous faire payer la casse, se dit Marco Valdo. Et déjà, il faisait les gros yeux à ses gosses, oublieux de son extase astronomique. Il tenta de prendre les devants. C'est des gosses, vous savez, ils lancent des pierres comme ça sur les moineaux, et je sais pas comment que ça se fait que cette réclame de la SPAC s'est déglinguée. Mais je les ai punis, ah oui, je les ai punis, et vous pouvez être sûr qu'ils recommenceront pas. Le docteur Godifredo tendit une oreille attentive. À vrai dire, moi je travaille pour le cognac Tomahawk, pas pour SPAC. J'étais venu pour étudier la possibilité d'installer une publicité lumineuse sur votre toit. Mais dites toujours, ça m'intéresse. Et ce fut ainsi qu'une demi-heure plus tard, Marco Valdo signait un contrat avec le cognac Tomahawk, principal concurrent de la marque SPAC. Les gosses devaient viser le niac avec leur lance-pierre chaque fois qu'après avoir été réparé, l'inscription lumineuse se remettrait en marche. Ça devrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, dit le docteur Godifredo. Il ne se trompait pas. Déjà au bord de la faillite, à cause de l'énormité de son budget publicitaire, la société SPAC vit dans les pannes successives de sa plus belle réclame lumineuse un symptôme de mauvais augure. Le fait qu'il y avait des fois où au lieu de cognac, on lisait cognac, d'autres cognac, d'autres encore conc, amenait les créanciers à penser à des difficultés financières. Et l'agence qui s'occupait de la publicité de la SPAC se refusa finalement à faire de nouvelles réparations si on ne lui payait pas l'arriéré. La réclame, définitivement éteinte, alarma davantage encore les créanciers. La société SPAC faillite. Dans le ciel de Marco Valdo, la lune brillait de toute sa splendeur. Elle en était à son dernier quartier quand les électriciens revinrent ramper sur le toit d'en face. Et cette nuit-là, en caractères de feu, des caractères deux fois plus grands et plus larges qu'avant, on pouvait lire « Cognac Tomahawk ». Il n'y avait plus ni lune ni firmament, mais seulement Cognac Tomahawk, Cognac Tomahawk, Cognac Tomahawk, s'allumant et s'éteignant toutes les deux secondes. Le plus peiné fut bien Fiorello. La fenêtre de la jeune fille lunaire avait disparu derrière un énorme, un impénétrable W. Automne. La pluie et les feuilles. À la SBAV, au nombre des diverses tâches qui incombaient à Marco Valdo, il y avait celle d'arroser chaque matin la plante en pot de l'entrée. C'était une de ces plantes vertes qu'on a chez soi, avec une tige bien droite et mince, d'où se détachent de part et d'autre, sur de longs rameaux, des feuilles larges et brillantes. Bref, une de ces plantes comme ça en forme de plante, avec des feuilles comme ça en forme de feuilles, et qui n'ont pas l'air d'être vraies. Mais c'était tout de même une plante. Et comme telle, elle souffrait parce que de demeurer là entre le rideau et le porte-parapluie, elle manquait d'air, de lumière et de rosée. Chaque matin, Marco Valdo découvrait quelques signes inquiétants. Une feuille semblait trop lourde pour le rameau qui la supportait et qui s'inclinait sous son poids. Une autre se piquetait de taches rouges comme les joues d'une enfant atteinte de rougeole. La pointe d'une troisième jaunissait jusqu'à ce que, paf, on retrouve l'une ou l'autre par terre. Pendant ce temps, et c'était là ce qui faisait le plus mal au cœur, la tige poussait, non plus feuillue, mais nue comme un bâton, avec une petite houppe à son sommet qui la faisait ressembler à un palmier. Marco Valdo ramassait les feuilles tombées sur le sol, dépoussiérait celles qui étaient encore saines, versait au pied de la plante une bonne mesure d'eau, lentement, afin qu'elle ne déborde point et ne salisse pas les carreaux, un demi-arrosoir, aussitôt absorbé par la terre du pot. Et il apportait à l'accomplissement de cette tâche une attention qu'il n'accordait guère à aucune de ses autres besognes, une sorte de compassion, comme s'il s'agissait des malheurs d'un membre de sa famille. et il soupirait. On ne sait si c'était en pensant à la plante ou à lui-même, car il reconnaissait un frère de misère dans cet arbuste maigrichon qui jaunissait entre les murs de la SBAV. La plante, on l'appelait simplement ainsi, comme si tout autre nom plus précis eût été inutile en un milieu où elle représentait à elle seule le règne végétal. La plante avait une telle importance dans la vie de Marco Valdo qu'elle occupait ses pensées à toute heure du jour et de la nuit. L'air dont il scrutait le ciel pour observer les nuages n'était plus celui d'un citadin qui se demande s'il doit ou non prendre son parapluie, mais bien celui du paysan qui guette de jour en jour la fin de la sécheresse. Et dès que, levant le nez de son travail, il apercevait en contre-jour par la petite fenêtre du magasin le rideau de pluie qui avait commencé de tomber silencieux et dru, il lâchait tout, courait à la plante, prenait le pot dans ses bras et le déposait dehors dans la cour. La plante, en sentant l'eau couler sur ses feuilles, paraissait s'étirer afin d'offrir aux gouttes la plus grande surface possible et se parer ainsi, toute joyeuse, de son verre le plus brillant. C'était du moins ce qu'il semblait à Marco Valdo qui la contemplait, oubliant de se mettre à l'abri. Ils demeuraient là, dans la cour, l'homme et la plante, l'un en face de l'autre. L'homme éprouvant presque des sensations de plante sous la pluie, la plante, déshabitué du plein air et des phénomènes de la nature, stupéfaite presque autant qu'un homme qui se trouve brusquement mouillé de la tête aux pieds avec ses vêtements trempés. Marco Valdo, le nez en l'air, savourait l'odeur de la pluie, une odeur qui pour lui était déjà celle des bois et des champs, s'efforçant de retrouver de vagues et lointains souvenirs au fond de sa mémoire. Mais parmi ces souvenirs-là, il en était un qui émergeait plus net et plus récent, celui des douleurs rhumatismales qui l'accablait chaque année, et alors il courait se mettre à l'abri. La journée de travail achevée, il fallait fermer le magasin. Marco Valdo demanda au chef magasinier : Je peux laisser la plante là, dans la cour ? Son chef, M. Villigelmo, était un type qui fuyait les responsabilités trop lourdes. T'es fou, non ? Et si on nous la vole ? Qui sera responsable ? Marco Valdo, pourtant, avoir le profit que la plante tirait de la pluie, n'avait guère envie de la remettre dans l'entrée. Ça aurait été gaspiller un don du ciel. « Je pourrais la garder avec moi jusqu'à demain matin, » proposa-t-il. « Je la charge sur mon porte-bagages et je l'emmène chez moi. Comme ça, j'y fais prendre le plus de pluie possible. » Monsieur Villigelmo réfléchit un instant, puis... « D'accord, » dit-il, « mais c'est toi qu'en réponds. » Maintenant, Marco Valdo traversait la pluie sous la pluie diluvienne, courbé sur le guidon de son cyclomoteur, encapuchonné dans un anorak imperméable. Il avait attaché le pot derrière lui sur le porte-bagages, et le cyclo, l'homme et la plante semblaient ne faire qu'un. Ou plutôt, l'homme, voûté, enfoui dans son anorak, disparaissait, et on ne voyait plus seulement qu'une plante en cyclomoteur. De temps en temps, Marco Valdo tournait la tête sous son capuchon et regardait derrière lui jusqu'à ce qu'il vît frétiller une feuille ruisselante de pluie. Et chaque fois, la plante lui paraissait plus grande et plus feuillue. À peine arrivé chez lui, une mansarde ouvrant sur les toits, la plante dans les bras, que ses enfants l'entourèrent en faisant la ronde. « Un arbre de Noël ! Un arbre de Noël !»« Mais non, qu'est-ce qui vous prend ?» protesta Marco Valdo. « Noël, c'est pas demain la veille !» Attention aux feuilles, elles sont fragiles. Déjà qu'on est dans ce logement comme dans une boîte à sardines, grommela Domitila, il manquait plus que tu nous apportes un arbre. Il nous reste plus qu'à sortir. Mais c'est pas un arbre, c'est une petite plante. Je vais la mettre sur le rebord de la fenêtre. L'ombre de la plante, posée sur le dit rebord, se voyait de l'intérieur de la mansarde. Au dîner, Marco Valdo ne regardait pas dans son assiette, mais au-delà des vitres de la fenêtre. Fin de la deuxième piste de la deuxième cassette, page 119, Marco Valdo ou les saisons en ville, par Italo Calvino. Ce chapitre n'est pas terminé, il se continue sur le début de la troisième cassette.